Salut, salut tout le monde. Je vous ajoute tous à la conversation. Bienvenue en direct de ce premier Café Omnium Banque Nationale. Nicolas Richard et Hugues Léger, comment allez-vous? Nico, je commence avec toi. Comment te portes-tu?
Ça va très bien, mis à part la météo qui fait des petits caprices là, ce matin pour cette première journée officielle de l'Omnium Banque Nationale. Mais les gars, on reste optimistes. On verra du tennis aujourd'hui, j'en suis convaincu.
Hugues Léger, je te salue parce que nous sommes en direct du studio Mazda des sources du groupe Delary. Beau travail aussi avec le backdrop, comme on dit en arrière. On a nos couleurs, nos studios en direct de l'Omnium Banque Nationale, le podcast qui prend un step de plus.
Salut les gars. Petit lundi pluvieux qui va être peut-être un casse-tête pour les organisateurs aujourd'hui, mais on est vraiment content d'être là. On est bien installés. Nous, on ne bouge pas d'ici pendant les prochains 7 jours, donc jour et nuit. Vous pouvez compter sur nous pour avoir toutes les nouvelles, l'ambiance, les émotions du cours central. D'ailleurs, il y a des joueurs courageux en ce moment qui s'entraînent. Je crois que c'est Sinner qui est là. C'est Schweitzman qui est avec lui. Qui est avec Sinner? On a Sinner sur le central qui s'entraîne avec un petit crachin de pluie. Les joueurs sont déjà courageux d'être là. Mais on est avec vous, on est content d'être là. Et chaque matin à 10h, on va être là pour le podcast en direct Café à l'Omnium Banque Nationale.
Oui, exact. Aujourd'hui, on a commencé un peu plus tard. Là, on s'installait, mais de façon générale, on va commencer à 10h pour mettre la table. Parlant de mettre la table, messieurs, dans notre cours studio dans lequel on s'adapte encore, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on a eu la chance de faire une entrevue avec le directeur du tournoi, Eugène Lapierre. Je lui ai parlé un peu plus tôt ce matin. Alors, voici, on commence avec un gros nom, le directeur du tournoi qui était au podcast. Voici l'entrevue avec Eugène Lapierre. Pour cette première journée du tableau principal, on a la chance d'avoir le directeur du tournoi avec nous, M. Eugène Lapierre. Bienvenue une fois de plus au podcast Sur la ligne et bon début de tournoi.
Ça fait plaisir, merci.
Et dites-moi, là, comment est-ce qu'on se sent au début de ce premier vrai Omnium Banque Nationale?
on l'a dit depuis plusieurs jours maintenant, il y a beaucoup de fébrilité, d'effervescence. Les amateurs avaient hâte que ça recommence. On l'a vu au cours du week-end, hein, des dizaines de milliers de personnes qui ont franchi les tourniquets pour venir voir les joueurs à l'entraînement, des matchs de qualification. Et toutes les activités qu'il y avait sur le site, contrairement à l'année dernière, absolument rien. Alors, donc oui, c'est très agréable et on espère que la météo va collaborer aujourd'hui.
Mais parlons-en de la météo juste pour aujourd'hui. Là. Bon, à chaque année, vous le répétez, il y a toujours de la pluie. Alors, on est habitué avec ce scénario-là. Il n'y a pas de problème. Quand même, ça complique un peu les choses quand c'est la première journée, n'est-ce pas?
En fait, peu importe la journée, c'est sûr que ça complique les choses. Mais vous savez, je réponds toujours la même chose. Les médias viennent me demander « Ah, il pleut, M. Lapierre, qu'est-ce que vous avez ? C'est quoi votre plan de pluie ?» Le plan de pluie, c'est que quand il pleut, on arrête de jouer.
Ah ben oui.
Hein. Quand on attend qu'il arrête de pleuvoir, on sèche les cours et on reprend. Alors, c'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui. Et on va s'assurer qu'on le fasse le plus rapidement possible. Alors, qu'est-ce qui peut arriver ? C'est qu'on remanie certains matchs, qu'on rejoue sur un... On prenne un terrain supplémentaire pour jouer des matchs. En fait, ça ne devrait pas être si compliqué que ça. Je dirais même surtout en début de semaine, surtout le lundi, c'est probablement la moins pire des journées pour que la pluie nous dérange trop.
Là. Et puis là aussi, on se dirigeait déjà vers un record de billets. Est-ce que la tendance s'est maintenue? Est-ce que ça devient difficile d'avoir des billets? Est-ce qu'il en reste un peu?
Ah, il en reste. Je dis toujours qu'il en reste parce qu'il en reste quand même. Faut y aller. Il reste quelques billets pour la plupart des séances. Hein. Donc il faut aller voir, mais ça disparaît vite. Et là, quand on va annoncer aussi les matchs de Félix, par exemple, de Kyrgios, de Medvedev, de Tsitsipas, d'Alexis Galarno, certainement. Alors donc, on devrait pouvoir annoncer les matchs de mardi plus tard dans cette journée. Évidemment, on va attendre un petit peu de voir comment ça se déroule parce qu'il va peut-être avoir des remaniements d'horaire à faire. Mais sinon, les matchs de mardi et de mercredi vont être super intéressants. Alors, les gens pourront les voir sur le site. Il reste des billets.
Oui, je regardais les matchs. Il y a beaucoup de matchs de premier tour qui sont très intéressants. Que vous ayez des billets pour le lundi, le mardi, même le mercredi, quand possiblement d'autres grandes têtes de série vont faire leur entrée en scène.
Exactement.
Il n'y aura pas de journée où il n'y aura pas de spectacle.
Non, tout à fait. Tous les joueurs sont là. Je sais pour moi qui. Il y avait un match, entre autres, que je voulais voir. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui Brooksby contre. J'essaie de me souvenir de ce match-là, mais je veux voir ça absolument. C'est demain, ça. Contre le premier tour de Brooksby.
De Brooksby, un jeune américain contre qui fait bien
Bublik. Je pense que c'est ça, Bublik contre Brooksby. Ça va faire des flamèches.
Ben, Bublik, déjà, c'est un joueur spectaculaire aussi.
Exactement. Exactement. Alors, donc, on va voir ça. C'est le genre de match que même si les amateurs ne connaissent pas nécessairement, les joueurs ne sont pas aussi célèbres que d'autres, mais c'est du gros tennis. Et ça va se batailler ferme sur le court pendant toute la semaine.
Puis votre bilan du week-end de la famille, tu sais, moi, j'étais là toute la fin de semaine. Beaucoup de monde, il a fait beau, il a fait chaud.
Beaucoup de monde. Moi, j'étais surpris parce qu'il faisait chaud, là, vraiment, là, pour s'en venir avec la famille, les enfants. Je voyais les jeunes, ça s'amusait sur le terrain et tout ça. Beaucoup d'activités avec les joueurs. Les joueurs ont très beaucoup coopéré parce que c'est le moment où on leur demande de faire des petites apparitions pour le public, faire des signatures d'autographes, venir parler aux gens, répondre aux questions, frapper des balles avec des jeunes et des choses comme ça. Alors, ils se prêtent à cet exercice-là de très, très belle façon. On était contents. Alors, on a un beau succès là, pour le week-end de la famille.
Et là, M. Lampierre, avant que je vous laisse aller, puisque je ne prendrai pas trop de votre temps, parce qu'il y a une grosse journée, le début du tableau principal, je vous demande une petite prédiction. Qui va remporter l'Omnium Banque Nationale selon l'expert tennis Eugène Lampierre?
Ben, je ne peux pas faire d'autres prédictions que de dire que ça va être Félix.
Alors, ben voilà, ben, Félix, champion.
Voilà. Alors, je ne suis pas pour aller contre Félix quand même.
Ben, déjà, c'est une prédiction qui a du sens. Il connaît un bon tournoi à Los Cabos et puis.
Il y a un premier tour compliqué, là.
Un premier match, au deuxième tour.
Enfin, on pense probablement. Je ne sais pas parce que. On pensait, tout le monde disait vendredi que c'était un match. Quel beau tirage, deux joueurs qualifiés. Mais là, ce ne sont pas deux joueurs qualifiés. Un de ceux-là va être un joueur qui a obtenu une exemption de ne pas faire les qualifications. Le Japonais Nishioka devait faire les qualifications. Il s'est rendu en finale du tournoi de Washington. Donc, il obtient une exemption pour être dans le tableau principal. Nishioka atteint la finale à Washington en battant justement Brooksby, dont je parlais, Dan Evans, Rublev, il y en a Khachanov, je crois. Donc, ça ne sera pas facile. C'est un match difficile. Peut-être que c'est mieux comme ça pour Félix de commencer avec un vrai test de ce côté-là. On verra.
Donc, vous l'avez entendu ici, M. Jean Lampierre dit Félix, champion à l'Omnium Banque Nationale. Ce serait le scénario rêvé. Bonne semaine, M. Lampierre. Bonne chance pour ce tournoi-là, pour ce premier vrai Omnium Banque Nationale.
Merci.
Alors, ben voilà, on a eu le directeur du tournoi, M. Eugène Lampierre. Hugues Léger, il pleut un peu ici, là. D'après moi, on va avoir un petit peu de retard aujourd'hui, là.
C'est parti. Yannick Sinner est sorti du terrain en courant. J'espérais juste qu'il ne glisse pas. Il a réussi à s'en sortir, mais ouais, là, c'est bien parti, ça tombe, là. On va rentrer dans un casse-tête d'organisation parce que quand ça arrive le deuxième, troisième jour, il y a des matchs déjà de disputés sur le tableau. Là, le tableau n'est pas débuté encore. Il y a beaucoup de matchs qui doivent se jouer aujourd'hui et demain et ça va être un sacré casse-tête pour l'organisation de tout replacer ça. On va avoir des très longues journées à compter de demain, assurément, et espérons qu'on pourra rentrer des matchs aujourd'hui quand même. Là, c'est pas assuré qu'il y aura aucun match.
Hugues, on est en début de tournoi comme ça, je regardais le line-up, comme on dit, des matchs aujourd'hui. Bon, faisons comme si on jouait. Là. Ce serait l'entrée en scène de Shapovalov. Tu t'attends à quoi de Chapeau aujourd'hui si on le voit jouer?
Bon, on sait qu'il joue contre Alex de Minaur, récent champion de Atlanta il y a deux semaines. Un joueur qui est en forme en ce moment, très, très bon joueur australien. Finaliste de la Next Gen en 2019, d'ailleurs, finaliste perdant contre Sinner, justement. Ça va être un sacré test pour Shapovalov, mais si jamais il réussit à passer son premier tour, tout d'un coup, il rentre sur une séquence et tout va bien. C'est peut-être le moment pour une rédemption en 2022 pour Denis. Donc, souhaitons qu'il traverse Alex de Minaur, mais c'est une grosse commande pour le premier tour.
Ouais, surtout que je regardais l'affiche entre les deux. Chapeau n'a jamais battu Alex de Minaur, 2-0. De Minaur est quand même sur une bonne séquence, connaît une bonne saison. Alors, et ce sera un peu compliqué. Quand même, est-ce que tu crois que Chapeau va relancer sa saison?
Écoute, moi, je suis un gars optimiste de nature, tu me connais. J'ose espérer, il a tout le talent pour le faire, mais il doit stabiliser plusieurs éléments de son jeu, notamment ses retours. C'est là qu'il y a vraiment que le bas blesse en ce moment. Son service, c'est on and off, mais ce n'est pas ça qui lui fait vraiment mal, c'est ses retours. Moi, je crois qu'il doit placer son jeu en ce moment. Là, il est un petit peu plus patient. Il peut entrer dans son mode Dennis flamboyant quand il est en contrôle de tous ses coups, mais ce n'est pas le cas en ce moment. Donc, je pense que le premier objectif, c'est de placer ses retours, de stabiliser son jeu un peu et on verra ce qui va se passer. Mais je suis en attente de preuve de la part de Dennis. Il y a eu trop de matchs perdus en premier tour et deuxième tour cette année depuis l'Australie. C'est une saison compliquée. Beaucoup, beaucoup de monde. Superbe week-end d'été à Montréal. Beau et chaud, même très chaud. Comme on le disait, c'est souvent le moment où des jeunes découvrent la passion du tennis. Ils sont près des joueurs, ils se promènent sur le site. Il y a plein d'activités. C'est des journées qui sont mémorables. Beaucoup de gens nous en parlent. Je pense que même Nicolas, notre collègue, nous a parlé un peu plus tôt la semaine dernière. C'est des moments qui sont inoubliables pour les jeunes. Donc, c'est toujours une grande fête du tennis. C'est le moment où on devient fan du tennis pour toujours. Tous les joueurs sont là, se promènent partout sur le site. On voyait les gens courir derrière les cartes de golf qui amène les joueurs vers les terrains pour avoir des autographes. C'est toujours toute une scène. J'ai vu Alcaraz à un moment donné avec 20 personnes qui couraient derrière le cadre pour avoir un autographe. Donc, il y a cette espèce d'effervescence et de proximité là, qui est imbattable. Et ça a été, je crois, un autre très, très grand succès ce week-end de la famille.
Nico, qu'as-tu pensé de ce week-end de la famille-là? Tu étais là aussi, toi, pour faire la couverture pour la presse. Il a fait beau, il a fait chaud. C'est quand même une autre fin de semaine couronnée de succès.
Oui, une grande réussite et j'ai l'impression que c'est le même sentiment que les joueurs ont. Chaque joueur, les gars qu'on a rencontrés, qu'on avait les pratiqués, qu'on avait en conférence de presse, qu'on a interviewé, avait l'air séduit, ravi. Et Andy Murray me disait justement hier, puis ça m'a un petit peu surpris, il me disait qu'il n'y a jamais vu autant de monde à des qualifications et à des pratiques. Il dit on voit ça nulle part ailleurs. À Montréal, c'est fascinant. Puis à chaque année, le week-end de la famille, tu sais, la mère d'Alexis Gallarneau disait que eux aussi, lorsqu'ils étaient jeunes, venaient au week-end de la famille, puis c'est fait pour inspirer les jeunes. Ce week-end-là est fait pour ce week-end de la famille. C'est pour les jeunes, pour les joueurs de club qui viennent admirer leur héros de très, très près. Week-end réussi, il a fait beau, il a fait chaud, l'ambiance était bonne. Vraiment, ça a été un succès sur toute la ligue.
Ouais, non, exact. Et je veux rappeler aussi que la 91.9 a diffusé toute la fin de semaine en direct de l'Omnium Banque Nationale. Nous, on est en direct du studio Mazda des Sources du groupe Delary. Messieurs, regardons, potentiellement, les matchs qui se disputeraient sur le court central aujourd'hui. On a une grosse journée de tennis devant nous si jamais on peut avoir une journée de tennis régulière. Là, évidemment, présentement, il pleut. On verra qu'est-ce que ça va donner. Eugène Lapierre était quand même assez confiant en début de journée. Elle semblait pas trop désarçonnée, je vais dire ça comme ça.
Il y en a vu d'autres.
Ouais, il y en a vu d'autres. Ça, c'est sûr. On a parlé de Chapovalov et de Minard, moi et Hugues, tout à l'heure, avant d'aller aux autres matchs. Nico, tu penses quoi de ce match-là? Est-ce que Chapeau va relancer sa saison ici à Montréal?
Ben, j'espère. Et malheureusement, on en parlait l'autre jour, les gars, je pense que Chapeau n'aurait pas pu tomber sur un pire tirage pour différentes raisons. D'abord, Dominor l'a battu deux fois dans les deux affrontements qu'ils ont joués un contre l'autre. D'autant plus que Dominor est probablement l'un des joueurs de l'heure sur le circuit. Il vient de gagner Atlanta. Il a bien joué à Eastbourne aussi. Une belle saison sur gazon. Ça s'amorce bien pour le dur. Il est rendu un rang devant Chapovalov. Mais hier, le Canadien nous dit en conférence de presse qu'il le connaît très, très bien. Les deux joueurs, en fait, se connaissent très, très bien, étant donné qu'ils ont joué ensemble, en fait, contre, au niveau junior. Donc, les deux se suivent. Les deux se respectent un et l'autre. Et Chapeau le dit. Ce sera un bon match pour le public. On a hâte de voir ce que ça va donner sur le central, en théorie, à 18h30. Mais malheureusement pour Chapeau, ce sera difficile. Mais il le dit aussi que s'il bat Dominor, ça va lui donner du rythme, ça va lui donner confiance. Donc oui, un duel, a priori, compliqué pour Denis Shapovalov, mais qui peut quand même être avantageux si ça tourne de son côté.
Hugues, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, tout à fait. J'ai la même analyse là, que Nico sur le match Shapovalov de Minor dont je parlais un peu plus tôt. Moi, j'ai aussi hâte de voir Stan Wawrinka, avec qui je me suis entretenu hier, justement. Vous écouterez cet extrait un peu plus tard, je crois aujourd'hui, Alex, avec Wawrinka. Wawrinka qui tente de relancer, après plusieurs blessures, sa saison 2022. Une victoire significative cette année contre Francis Tiafoe au Queens en 3-7, mais c'est compliqué. Pas beaucoup de victoires enchaînées pour Stan cette année. Mais c'est lui qu'on verra normalement sur le court central au premier match qui est cédulé pour midi. Donc, j'ai bien hâte de voir ça contre Emil Roussouvori, le Finlandais. Grosse commande aussi pour Wawrinka. Mais c'est un autre des joueurs. Je rebondis sur ce que Nico disait tantôt, sur ce que Murray disait, sur le fait qu'il y a tellement de gens sur le site pour des matchs de qualification. Je pense que les joueurs se régalent de ça, en fait. Les joueurs aiment se prendre ce bain de foule-là. On a vu mon fils participer aux activités, Sinner. Tout le monde est très relax, ont envie de parler. Les joueurs à qui j'ai parlé hier étaient vraiment en mode chit-chat, c'est ça qu'on veut. Et pour nous, c'est du bonbon, et pour vous aussi qui nous écoutez, parce qu'on vous donne une vue de l'intérieur, en fait. Et c'est vraiment cette relation-là qu'on établit en ce moment avec les joueurs. Ils sont disposés pour ça à Montréal en ce moment.
Et là, vous entendez peut-être la musique jouer derrière nous. C'est que il y a quand même un peu d'ambiance au Stade IGA. On est sur le central. Le podcast sur la ligne a son propre studio, le studio Mazda des sources du groupe De Larry. On est sur la galerie de presse. Et comme tu disais, Hugues, on est en direct. On ne pourrait pas plus être près de l'action que ça. Parlant de l'action, messieurs, allons voir les autres matchs potentiels aujourd'hui. Commençons avec Murray contre Fritz. Nico, tu as parlé à Taylor Fritz hier. Ça a été quoi tes impressions de cet Américain?
Mon impression, les gars, c'est que même s'il a connu une saison jusqu'à maintenant du tonnerre, un titre à Indian Wells, il fait maintenant partie du top 15 mondial. C'est un garçon qui m'a l'air d'être très, très sévère avec lui-même. Parce que, bon, il a bien joué à Wimbledon. Il a poussé Nadal dans ses derniers retranchements. Il a gagné à Eastbourne, mais quand même, il a dit « Ma saison ne sera pas une réussite tant que je ne serai pas dans le top 10 mondial. » C'est quand même pas rien, là. Un gars qui est sévère avec lui-même, qui se met des attentes extrêmement élevées, mais il l'a dit « Je suis capable d'y arriver. J'ai ces objectifs parce que je sais que j'ai le talent pour y arriver. » Mais l'impression que j'ai, c'est qu'il est prêt à jouer. Hier, bon, il a voyagé aussi au courant des derniers jours. Il avait l'air un petit peu fatigué, mais je suis convaincu que les gars sont habitués. Il va revenir en force. Et pour Murray, ce sera extrêmement difficile parce que Taylor Fritz, dorénavant, peut rivaliser avec n'importe quel joueur sur le circuit.
Bah, quand tu es champion de Indian Wells, un Masters 1000, un des plus importants, je pense que tu peux aspirer à de grandes choses. Dans ce match-là, messieurs, contre Murray, évidemment, Andy Murray, c'est un grand de sa génération. Est-ce qu'il peut toutefois rivaliser contre Taylor Fritz aujourd'hui, Nico? Je vais aller avec Hugues en premier. Hugues?
Pour Murray, ça va être difficile. Fritz, en plus, aime ces conditions-là. On sait qu'il a gagné le Masters 1000 à Indian Wells, comme tu le disais, Alex. Donc, il n'y aura pas de problème avec la chaleur. Il est 10e favori du tournoi. Il est en bonne position pour remporter ce match-là, selon moi. Andy Murray aussi, il y a quelques victoires sporadiques cette année. Il y a eu quelques grosses victoires, notamment contre Yannick Sinner au début de l'année, au printemps. Mais je pense que Fritz devrait passer au deuxième tour assez facilement. Là, je prévois une victoire en 2-7 contre Murray. Même si Murray est un excellent relanceur, il va se bagarrer. Fritz va être au-dessus.
Nico, est-ce que cet ancien champion de l'Omnium Banque Nationale, Frick Cup Rogers, peut surprendre Taylor Fritz aujourd'hui?
Il pourra rivaliser avec lui. Le battre, ce sera compliqué. Quoique, Murray, je pense, va avoir l'avantage de la foule. Et à Montréal, c'est pas banal. Sur le central, d'autant plus. C'est peut-être là l'impondérable qui pourrait jouer dans la balance pour le Britannique. Mais Fritz, c'est tout simplement trop fort, les gars. Il fait partie de cette génération. Tantôt, j'en parlais à Alex. Hein. On en parle très peu, là. Mais il est dans la même gang que Félix, que Yannick Sinner, que Tsitsipas. Il a le talent pour le faire. Il est peut-être moins volubile, peut-être moins de grandes victoires, mais il fait partie de ce groupe de prestige. et malheureusement pour Murray, qui tient son bout, là, qui veut gagner. Il s'est encore entraîné extrêmement fort samedi et dimanche. Il est là pour gagner, il l'a dit. Mais il faut être réaliste, Taylor Fritz est peut-être un adversaire trop fort pour Murray.
Donc, pas de surprise pour vous aujourd'hui dans le cas de Taylor Fritz et Andy Murray ne fera que passer à Montréal.
Juste peut-être rajouter un petit fait. Andy Murray était le quatrième favori du tableau en 2011. J'ai eu un push de Facebook hier matin qui m'a fait sourire, en fait. Je voyais que dans ce tournoi 2011, les favoris, il reste Wawrinka, Murray et Gaël Monfils. Donc, Andy Murray qui était dans le Big Four de l'époque, tout juste derrière Djokovic, Nadal et Federer. Mais bon, c'est pas l'Andy Murray, quatrième tête de série, qu'on va revoir aujourd'hui, 10 ans plus tard.
Parlant de joueur qui n'est plus le même, un autre qui est en action aujourd'hui potentiellement, c'est Stan Wawrinka, que moi et Hugues, on a vu s'entraîner un peu plus tôt ce matin. Hugues, je commence avec toi. C'est un match assez intéressant, Wawrinka contre Roussevori, parce que Roussevori a quelques résultats intéressants cette année. Et Stan Wawrinka, bon, à la lumière de ses derniers résultats des deux dernières années, n'est plus le grand champion de Grand Chelem. Est-ce que qui vois-tu sortir gagnant de ce match-up-là?
Je ne sais pas dans quel état est Wawrinka aujourd'hui, mais il m'a dit hier qu'il se sentait bien, que sa préparation pour le US Open était satisfaisante pour lui en ce moment. Je pense qu'il croit beaucoup en ses chances dans son match de premier tour aujourd'hui. Donc, moi, je m'attends peut-être à une surprise. Peut-être que je la souhaite. J'aimerais bien savoir Wawrinka avancer un petit peu dans le tableau. Roussevori est un joueur, est un jeune joueur qui fonctionne bien aussi en ce moment, mais Stan est vraiment assoiffé de victoire. Et s'il continue de jouer, c'est parce qu'il veut remonter au classement. C'est parce qu'il veut. Il veut continuer. Là. Il n'est vraiment pas là comme figurant. Donc, je m'attends à un match extrêmement serré, à un 3-7, et je pense que Wawrinka pourrait poser une surprise et remporter ce match-là.
Nico. Je pense que Nico, petit problème de connexion Internet. Moi, je suis d'accord avec toi, Hugues. J'ai l'impression que Stan Wawrinka pourrait peut-être surprendre. Enfin, son adversaire, c'est quand même pas un champion de Grand Chelem. Nico, est-ce que tu es de retour avec nous?
Je suis là plus fort que jamais. Et un petit point sur Wawrinka, ce que j'ai trouvé intéressant dans sa pratique de samedi, lorsqu'il s'entraîne avec Batista Agut, et Hugues, tu sauras me le confirmer vu que tu l'as parlé hier. L'une des grandes forces de Wawrinka, je pense, c'est qu'il se conserve très, très bien. Dans la pratique qu'il a fait, c'est un entraînement intense, mais quand même avec l'expérience qu'il a comme vétéran, il est capable, surtout qu'il faisait très, très chaud, je trouve qu'il gérait bien sa pratique. Jamais trop haut, jamais trop bas, garder un bon rythme. Et lorsqu'il y a un joueur comme ça, qui est extrêmement talentueux, mais qui a été blessé plus souvent qu'à son tour au cours des dernières années, lorsqu'un joueur veut revenir et compétitionner avec les jeunes loups du circuit, je trouve que Wawrinka se conserve très, très bien. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui. Je l'ai trouvé aussi au niveau physique extrêmement bien. Très, très serein aussi, très calme, évidemment. C'est un gars d'expérience. Champion de Roland-Garros en 2015, avec le short le plus surprenant de l'histoire des finales de Grand Chelem. On en parlait avec lui hier. On vous aurait des petits extraits assez rigolos sur sa tenue pour la finale de Roland-Garros. Mais physiquement, il est très bien. Mentalement, il semble très bien. Il est affamé. Et venez le voir aussi pour peut-être un des plus beaux revers à une main de l'histoire du tennis. Là. C'est vraiment de toute beauté comment Wawrinka déclenche son revers à une main. Donc, profitons aussi de ces joueurs comme Murray, comme Wawrinka, qui sont dans leur dernière année ou deux ou trois années maximum encore devant eux pour nous régaler avec eux. Là. Donc, je m'attends à un très bon match avec Wawrinka.
Ah, ben, dans le cas du revers de Wawrinka, il avait un exemple pas très loin de lui qui duquel il pouvait peut-être s'inspirer, parce que le revers de Federer n'est pas si mal non plus, n'est-ce pas, Hugues?
En effet, celui que souvent on compare à maintenant, on l'entend beaucoup, que Federer est comme un danseur sur le terrain. Il se déplace tellement bien, c'est tellement beau, c'est presque artistique là, sa façon de jouer, cette fluidité. Mais oui, effectivement, celui que malheureusement va être souvent connu comme l'autre Suisse, hein, le Wawrinka, parce que Federer, évidemment, le Suisse le plus connu. Mais c'est un joueur, encore une fois, de très, très haut niveau. Puis quand on parle d'un champion de Grand Chelem, c'est quand même pas banal. Et il a gagné autant de Grand Chelem sur Roland-Garros, sur terre battue que Federer, c'est-à-dire tous les deux ont une victoire à Roland-Garros. Donc, Federer, c'était en 2009 et Wawrinka en 2015.
Et là, tu viens d'apprendre quelque chose à Nico, parce que Nico, t'es convaincu que Mark Streit était le Suisse le plus connu.
on aime bien Mark Streit aussi, on le salue.
Et Yannick Weber.
Exact, et Yannick Weber. Bon, mais messieurs, ben voilà, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver dans ce match-là. Faudrait pas se surprendre non plus de voir Wawrinka l'emporter. Je pense même, moi, que je vais lui donner l'avantage. Diego Schwartzman, Alexandro Davidovich Fokina, c'est un match très intéressant également, ça. Pas nécessairement évident à prévoir, sans qu'on sait, on passe trop de temps sur ce match-là. Nico, tu en penses quoi?
Honnêtement, les gars, c'est rare, mais je ne sais pas à qui donner l'avantage. Et c'est, je pense, le genre de rendez-vous auquel on aura droit tout au long de la semaine. Parce que le tableau est tellement relevé, les gars. Il y a tellement de bons affrontements. Il y a tellement de bons joueurs. Puis la saison est assez drôle aussi, dans le sens que parfois, on est surpris parce que des joueurs qui devaient gagner ne gagnent pas. Combien de surprises aussi des joueurs qui sortent de l'ombre, qui ne rentrent pas des tournois. Donc, ce match-là, je ne pourrais même pas dire qui va l'emporter. Et ce sera le cas pour beaucoup de matchs. Pour notre plus grand bonheur, parce que lorsque c'est trop évident, trop facile, le plaisir et le divertissement, ils sont un peu moins. Mais pour ce match-là, je suis curieux de voir vous ce que vous en pensez, parce que je suis encore mitigé à y aller d'une prédiction.
Hugues? Oui, c'est un de ces affrontements de premier tour qui est vraiment du bonbon. Là. Encore une fois, c'est des matchs qu'on va voir souvent plus loin dans les tableaux des tournois. On sait que les deux joueurs ont connu leurs meilleurs résultats sur terre battue. Je pense que le jeu de Davidovich Fokina va être un peu plus, disons, adapté aux surfaces de Montréal, qui sont apparemment rapides, mais pas dans les plus rapides. Donc, c'est une surface dure là, qui est quand même relativement lente, si on se fie aux commentaires que Tsitsipas a fait durant le tirage du tableau. Donc, je pense que c'est une phase qui va s'y très bien à Davidovich Fokina. Schwartzman est un relanceur, on le sait. Donc, je pense qu'il va se faire bousculer un petit peu sur le terrain. Et je pense que Davidovich Fokina devrait passer le premier tour contre Schwartzman.
Je sais pas si ça peut vous aider, messieurs, mais quand on regarde la fiche entre les joueurs, il n'y a pas photo domination de Schwartzman contre David. On va aller voir quelle surface. À l'intérieur, sur surface dure et surface dure. Toutes des surfaces dures et des surfaces moyennement rapides et rapides. Alors, ça vous donne une petite idée de à quoi pourrait ressembler ce match-là ce soir. Quoique Davidovich Fokina a quand même des armes, et comme tu le dis, peut-être... parfois un peu plus à l'aise, a eu des bons résultats, en tout cas, sur terre battue. C'est le cas des deux joueurs. Mais Schwartzman a connu de bons moments sur dur également. Là. Alors, bon, ce sera un match très intéressant. Les quatre matchs sur le court central se donneront. La pluie semble diminuer ici à l'Omnium Banque Nationale. Là. Tantôt, ça tombait un peu plus dru, si on veut. Mais là, ça me semble un peu plus calme. Messieurs, on va passer du côté de Toronto, voir ce qui se passe. Et je veux vous faire entendre une clip de Leila Annie Fernandez. Hier, dans son point de presse, elle a parlé. Je vais vous faire écouter 2 minutes de ce point de presse-là. Je pense que ça vaut la peine d'avoir un peu l'état d'esprit de Leila Annie Fernandez.
So far has been amazing, has been fun because, well, I haven't seen the fans yet, but up to now, like, I just know that there will be a lot of people watching tennis because it is full capacity in a while. I know that the tennis fans are excited to see the Canadian girls, but also the professional, the other athletes who are doing great things. There's a lot of great names in the draw that are practicing. So it's just going to be an exciting week, and I'm sure everybody's just going to have some fun. Next
question. You mentioned being excited to get back to competition and be on the courts. Can you talk a little bit about what the process has been like getting you to here since Roland Garros? Mm-hmm. And I know that you had that exhibition lined up and the PC and yeah. Tournament and stuff. So how is the foot? Is the upshot?
The foot is great. It feels like a brand new foot. Since Roland Garros, it has been a roller coaster. It was all my emotions. I was sad, heartbroken after, like for a few days. And then I came back home and then we got more bad news from the doctor saying that it is a stress fracture and that you should not be putting any weight on it. So for a couple of weeks, I was just hopping on one leg. Funny sight to see, but hopping on one leg, and then the other couple of weeks, I was finally able to walk a little bit. It was a funny sensation. And the happiest moment was when I was able to take my boot off. That was when the doctor says, like, you can take your boot off, but you won't be able to be ready for the exhibition in DC. So it was happy for 5 seconds, sad for the next 20 minutes. But, you know, we've just been trying to accept the situation. And I think we've been doing a great job in understanding that this is a bad moment, but at least we're spending this bad moment as a family and seeing it as like kind of a silver lining. I was able to spend time with my family. I was able to watch a little bit more TV. I was also able to read more books, which like in the past, like I was hard-headed and did not want to read books. But the past few weeks, I've been reading a few more books and I've been enjoying it a lot. So that's definitely surprising. And then just a few days ago when I did get the green light from my doctor, that was the best hour and a half of news that I could ever ask for. And you know, I think, like I said, it was just a roller coaster, and I'm just excited to be back and happy to be back to compete.
Alors, je vais traduire rapidement pour vous donner une idée de ce qu'elle a dit. Je pense qu'elle est bien contente d'être de retour au jeu. Elle a expliqué un peu comment ça s'est passé. Au départ, elle ne pouvait pas mettre de poids sur sa jambe. Elle a eu une botte pendant un bon bout. Elle pensait sincèrement revenir à Washington quand elle a enlevé sa botte, mais finalement, elles se sont rendues compte que c'était juste impossible. Mais elle a parlé de « brand new foot ». Alors, est-ce que son pied est en bon état? J'entendais Jorge Fernandez, son papa, ce matin à la radio, dire qu'elle n'était pas à 100%, mais vous l'avez vu dans la conférence de presse, elle semble avoir en tout cas une bonne attitude, elle semble assez positive. Je ne sais pas, est-ce que vous avez le même feeling que moi? Hugues, je commence avec toi.
Oui, je pense que le moral est extrêmement bon. Je pense que d'abord, elle est heureuse de recommencer à jouer. Je pense que le premier point, c'est ça. Là. Elle n'a pas enchaîné de match ou joué de match depuis Roland-Garros. Ça fait un sacré bout de temps. Donc, ça va être un match test un peu son premier tour. Là. C'est difficile de savoir dans quel état elle est réellement au niveau d'être ce qu'on appelle game ready. Là. Mais connaissant Léla, ça va être une bagarre parce qu'elle est toujours là pour remporter, évidemment. C'est une compétitrice hors pair. Il n'y a aucune joueuse qui veut l'affronter parce qu'ils savent que ça va être à chaque fois un combat compliqué, potentiellement long. Elle trouve des solutions à toutes les situations, Léla. C'est ça qui m'impressionne à son jeune âge aussi. Donc, mais pour nous, ça va être vraiment de voir dans quel état elle sera physiquement là et comment son jeu est au niveau de la compétition qu'elle reprend. Là.
Nico, est-ce que tu es rassuré par ce que tu viens d'entendre?
Oui, puis d'autant plus, les gars, on sait que Leila, c'est l'une des filles les plus compétitives sur le circuit. S'il y en a une qui est hargneuse, s'il y en a une qui veut absolument gagner, c'est Leila. Et un petit peu comme Medvedev, ça fait longtemps qu'elle n'a pas joué. Elle a le couteau entre les dents. Elle était si près d'acquérir des titres importants en début de saison, une blessure qui l'a ralenti. Là, elle est de retour au Canada, de retour à Toronto. Je suis convaincu que l'ambiance sera absolument phénoménale et que le public torontois sera derrière Fernandez, qui, elle aussi, les gars, n'oubliez pas, là, elle arrive dans une série où elle aura beaucoup de points à défendre au US Open l'année dernière. En finale, elle a, bon, évidemment, elle a acquis beaucoup de points, mais là, il faudra défendre ces points-là pour ne pas perdre de rang au classement. Préparation hyper importante pour Fernandez et je suis convaincu que ça se passera bien à Toronto.
Messieurs, l'émission tire à sa fin. On va regarder qu'est-ce qui va se passer du côté des autres matchs à Toronto. Il y a tout un programme aujourd'hui à Toronto, alors que les deux sœurs Williams sont en action. Serena Williams va affronter Parisas Diaz. Teichmann contre Venus Williams. Match intéressant, ce match-là, parce qu'il est... bon, c'est un bel espoir du tennis Teichmann. Robbie Minard en a parlé à quelques reprises. Et Venus, ben, c'est une légende. Stevens contre Kenin, deux championnes de Grand Chelem. Deux Américaines, deux filles très solides. Et Alep contre Vekic. Messieurs, il y a des finalistes de Grand Chelem dans chaque match disputé aujourd'hui, à tout le moins, des finalistes ou des championnes. C'est un programme assez spectaculaire, n'est-ce pas, Hugues?
Ah oui, oui, je regarde ça encore une fois. À Toronto comme à Montréal, là, c'est du bonbon aujourd'hui. Effectivement, dans mes matchs que j'ai encerclés pour aujourd'hui, c'est Venus Williams contre Jill Teichmann. Peut-être un moment pour faire un statement pour Teichmann là, contre la légende Venus Williams. Leila contre Storm Sanders, j'ai bien hâte de voir ce match-là. Écoute, toute la séquence d'aujourd'hui, là, toute la cédule est vraiment impressionnante. Ça s'ouvre avec Simona Halep, un peu plus tard, là, à 11h. Ben, maintenant, je ne sais pas si le temps à Toronto est favorable. Là, on va aller jeter un coup d'œil tout de suite là-dessus. Ils sont sur le point de commencer, donc Simona Halep pour ouvrir le bal. Mais c'est une journée très, très bien remplie à Toronto aussi.
Nico, as-tu souvent vu un ordre du jour ou un programme aussi spectaculaire lors d'un premier tour, une première journée?
Oui, puis c'est ce qu'on disait, tu sais, d'autant plus qu'à Montréal, on a un tableau extrêmement relevé. C'est le cas à Toronto, les gars. Chez les Canadiennes, on dirait qu'à chaque tour, il y aura des surprises. À chaque tour, il y aura des confrontations spectaculaires pour le plus grand plaisir des amateurs de tennis. Mais oui, tu sais, pour Fernandez, pour Andreescu, pour Marino, ce ne sera pas facile. Il n'y aura rien de simple. Tu l'as dit, Alex, beaucoup de finalistes, de champions de Grand Chelem qui sera là. On parle beaucoup, avec raison, de Montréal. Mais à Toronto, les gars, je ne serais pas surpris qu'il y ait soit une immense surprise ou quelqu'un qui concrétise sa saison phénoménale.
Intéressant, Hugues.
Oui, ben moi je retiens surtout probablement le dernier passage des deux sœurs Williams ensemble au Canada. C'est quand même un moment historique, là, donc je souligne ça. Je suis assez d'accord avec Nico. J'ai eu plus de difficultés à faire mes choix du côté de Toronto que du côté de Montréal, du côté des femmes. Donc je pense que le tableau reste assez ouvert. Donc, on va avoir une nouvelle championne, je suis presque sûr. Je douterais que Camila Giorgi puisse défendre son titre jusqu'au bout cette année. Elle se fera d'ailleurs à Raducanu au premier tour, qui sera assez intéressant. Mais je m'attends à une vainqueur, peut-être surprise. C'est pas nécessairement Swiatek qui va sortir gagnante. Donc, regardons les Pegula, Badoza, peut-être Sakkari qui va aimer jouer dans cette température-là et qui a une forme physique hors pair qui va être un facteur important, je pense, aussi à cette période de l'année. Donc, tableau quand même assez ouvert à Toronto.
En trois minutes, messieurs, je veux qu'on revienne sur des résultats du week-end parce qu'ils sont intéressants en perspective de ce qui va se passer cette semaine. D'abord et avant tout, le préféré de Nicolas Richard, Nick Kyrgios, qui l'emporte à Washington. Une surprise, Nico, ou c'était à prévoir de la façon dont il a joué à Wimbledon?
Ben, tu parles de la manière... Et là, je n'ai pas été surpris. On a vu, bon, on est occupé toute la journée. Là, j'ai regardé les résumés, les faits saillants. Encore une prise de bec avec l'officiel. Encore une prise de bec avec des partisans. Kyrgios qui est égal à lui-même. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à Montréal. Bon, là, il a un titre en poche. Il a bien joué, on le sait, à Wimbledon. Il est finaliste. C'est évident que les gars, il doit être considéré pour le titre à Montréal. Il aura Daniil Medvedev, notamment, sur son parcours. Donc, ce sera peut-être plus ardu pour lui. Mais il est tellement dans une bonne séquence. Et je me demande, les gars, est-ce que Nick Kyrgios pourrait terminer l'année dans le top 20? Dans le top 15? Supposons là, qu'il au US Open, là, supposons qu'il a vraiment un bon tournoi, qu'à Montréal, il a un bon tournoi. Je ne serais pas surpris, les gars, de se reparler en janvier à l'aube de l'Omnium d'Australie, Kyrgios soit membre du top 20 ou du top 15.
Il n'est pas surpris, il était classé très loin. Là. Hugues Léger, est-ce que tu es surpris de cette victoire-là?
Pas du tout. Ce qui est, je trouve, dommage, c'est qu'effectivement, il a une forme splendide en ce moment. Il n'y a pas eu de points à Wimbledon pour les raisons qu'on connaît. Donc, son rang de 64 ne refait là. Il a sûrement monté ce matin, là, mais il était autour de la 60e place. Ne correspond pas du tout à son jeu en ce moment. Belle victoire. Il nous démontre, je crois, que mentalement, il a peut-être passé un cap. Oui, ça sera toujours un peu le chaos sur le terrain quand Nick Kyrgios joue parce que c'est comme ça qu'il vit ses matchs, sa relation avec son friends box aussi. Il parle constamment à sa famille, à son coach. Donc, c'est un joueur qui performe dans le chaos, je vais le dire comme ça. Mais au niveau de son jeu, écoutez les gars, c'est son troisième titre en deux semaines. Là. Il a gagné deux titres en double. Donc, il est champion et en simple et en double à Washington. Il a gagné en double avec Kokkinakis à Atlanta. C'est un gars qui est en très, très, très grande forme en ce moment. Donc, s'il arrive reposé puis il peut récupérer assez vite à Montréal, attention. Moi, le seul bémol, c'est que je regrette un peu de voir un match potentiel de deuxième tour contre Medvedev. C'est une finale, c'est un programme de finale de Grand Chelem, Medvedev contre Kyrgios. Mais ça reflète la réalité du classement de Kyrgios pour l'instant. Mais il va monter très vite. Fait qu'effectivement, je m'attends à le revoir dans le top 20. Peut-être même plus plutôt que tard. Là. Son fameux hashtag en ce moment, c'est hashtag NK Rising. Donc, Nick Kyrgios Rising, and he is rising right now.
Ouais, il va très bien. Et comme tu le dis, c'est trois titres en deux semaines là, pour Nick Kyrgios. Alors, intéressant. Autre résultat intéressant, Medvedev qui remporte à Los Cabos. Il sera, à mon avis, le grand favori. Nico, Hugues, est-ce que vous avez des objections par rapport à ce que je viens de dire?
Je demeure à ce que je disais il y a quelques jours. Medvedev a faim. Medvedev est affamé. Il n'a pas joué depuis longtemps. Premier tournoi à Los Cabos. Boum, victoire. Omnium, marque nationale. Boum, victoire. Probablement.
Oui, on appelle ça, ce qui se passe en ce moment, la Russian Revenge. Là. Le fait qu'ils n'ont pas pu jouer à Wimbledon, tant du côté des hommes que des femmes. Les gars sont affamés. Les Rublev, Medvedev ont le couteau dans les dents. Du côté féminin, la même chose. Medvedev a beaucoup de points à défendre. On l'a dit déjà dans cette série vers le US Open, notamment au US Open dont il est le champion. Il est ici pour gagner à Montréal, donc son statut de premier favori. Et 100% mérité, puis il va tout faire pour le faire, pour le confirmer au niveau des matchs. Mais encore une fois, Nick Kyrgios au deuxième tour, ça va être compliqué, mais je laisse quand même Daniil Medvedev, qui est selon moi le plus grand tacticien du circuit, pour passer quand même son match contre Kyrgios.
Le chess master. On va aller du côté des femmes aussi. Kazatkina qui l'a emporté. Et ça, c'est intéressant parce que la championne de San Jose, ben, c'est la première adversaire de Bianca Andreescu. Rien de facile, n'est-ce pas, Hugues, pour Bianca? On ne sait pas dans quel état, puis là, elle va affronter une fille qui vient de gagner.
Non, c'est ça. Donc, Bianca, point d'interrogation, là, après une belle séquence ce printemps, ça semble être un petit peu plus compliqué en ce moment. Sacré test, mais Bianca adore jouer au Canada, va vouloir donner un bon spectacle et tout faire pour gagner le match. Donc, on verra bien ce que ça va donner, mais c'est un premier tour très, très compliqué pour Bianca. Et Kazatkina, ben oui, elle joue bien en ce moment. Là, donc, je pense qu'elle devrait pouvoir gagner son match contre Bianca Andreescu.
Nico?
On en parlait hier à la radio, Alex. Elle est la championne défendante. Bianca Andreescu, pas un premier tour facile. Mais j'ai espoir en Bianca. Elle a une petite blessure au dos, mais de ce qu'on a vu des images en provenance de Toronto, ça semble réglé. Je ne sais pas si elle est à 100%, mais elle semble à l'aise. Son mouvement est fluide. Je vais y aller, moi, pour Bianca, les gars. C'est son tournoi, elle est la championne défendante. Allons-y, Bianca sera... Bon, je suis peut-être pas prêt à avancer qu'elle va gagner le tournoi, là, mais elle va certainement passer, je pense, les deux premiers tours parce que c'est son moment de gloire. Elle l'a mérité depuis son retour au jeu. C'est spectaculaire. Donc, allons-y pour le chauvinisme et Bianca Andreescu.
Ben, en tout cas, si elle peut remporter ce tournoi-là, ce sera déjà très positif. Ce tournoi-là, ce match-là, on aura raison d'espérer parce que ce sera déjà en partant une grosse victoire puis ça va nous donner une bonne idée de à quel niveau de jeu elle est. Messieurs, je vous remercie infiniment. C'était notre premier café OBN de la semaine. On le fera toute la semaine autour de 10h le matin. On va être en direct. Venez jaser avec nous si vous êtes sur place. Venez jaser dans le broadcast avec nous. On veut échanger avec vous si vous êtes là. Venez vous nous poser vos questions également. Nicolas Richard, merci. Hugues Léger, merci. Nico, tiens, tant qu'à faire, je vais te donner le traditionnel mot de la fin.
Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, tout le monde.